Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au Hellfest édition 2024 et nous sommes avec le groupe Raffengrimmer. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors vous avez joué il y a quelques heures avec une date un peu spéciale, à double titre. Alors le Hellfest est toujours un peu spécial et puis un anniversaire au passage.
Ouais, c'était l'anniversaire d'Arnaud qu'on appelle Indrik. C'est 33 ans aujourd'hui, donc c'est vrai que c'était l'occasion de lui rendre hommage. Tout simplement, de lui faire vivre un anniversaire pas comme les autres.
Ce concert Hellfest, ça s'est passé comment, de ton point de vue ?
Hyper bien. Je suis très heureux d'avoir qu'on ait eu un accueil aussi important et aussi enjoué. Tu vois, c'était. On est un jeune groupe, hein, on fait du live depuis 2 ans seulement, on existe depuis 4 ans. D'être aujourd'hui au Hellfest, c'est une vraie chance. Et d'avoir un public. Qu'on découvre, qu'on ignorait, aussi important, c'est galvanisant.
Je ne vais pas revenir sur la prononciation du nom, parce que ça, je sais que ça devient même des blagues, vous en avez parlé sur Facebook. Pour autant, le choix de ce nom-là, qu'est-ce que ça évoque particulièrement pour toi ?
Alors, comme je le dis souvent, j'ai toujours été très attiré par la symbolique du corbeau dans la mythologie scandinave. Et puis, le hasard a bien fait les choses, c'est un animal qui était très proche de mon personnage dans le groupe Skald avant. Donc j'incarnais un personnage qui était donc grimé comme un corbeau. Et du coup j'avais bien aimé ça. Et quand on m'a invité à partir du groupe, je trouvais ça intéressant de garder cet aspect-là qui était cher à mon cœur. Donc voilà, et Raffengrimmer, donc ça vient d'un prénom islandais qui n'est plus utilisé, et ça veut dire celui qui porte un masque de corbeau. Raven comme le corbeau en anglais, et Grimmer comme se grimer en français. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas très marketing comme nom, mais ça correspond à l'esprit du groupe. Voilà.
C'est vrai que Huguin et Munin, voilà, pour Rodin, c'est extrêmement important, et ça explique aussi l'arrivée du coup masqué sur scène.
Alors oui, c'est un truc qui a été... J'avais fait une commande d'un masque, j'avais oublié, et on l'a reçu hier, donc c'était pas prévu, et j'aime cette spontanéité-là, elle nous ressemble, tu vois, il faut que chaque show soit unique et singulier, et c'est ça le rock'n'roll, tu vois, donc on l'a reçu hier, j'avais oublié que je l'avais commandé, parce que avec tout ce qu'on a à faire, voilà, et donc je remercie d'ailleurs notre copine qui nous l'a fait, en si peu de temps, voilà.
Son nom ?
C'est une copine de Lorraine qui s'est lancée, qui n'est pas du tout là-dedans à la base. C'est Sandrine qui nous avait fait ce masque. En fait, j'ai découvert son travail quand elle travaille. On a enregistré le clip d'un groupe qui s'appelle Nihilisme dans le tiers-lieu qu'on a construit avec le groupe. Et on travaille avec d'autres groupes, on fait partager de notre expérience et surtout d'un studio d'enregistrement et d'un hangar pour tourner des clips. C'est une copine à Valentine, notre photographe. Elle a participé au festival qu'on organise et tout ça. Et elle est venue avec sa masque pour le clip de Nihilisme. Et quand j'ai vu son travail, j'ai fait « Mais tu fais ça depuis quand ?» Et elle me dit « Mais je débute. » J'ai dit « Écoute, on va au Hellfest dans 15 jours. Est-ce que tu peux me faire un masque, quoi ?»
15 jours ?
Ah oui, oui, oui.
Ah oui, quand même.
Donc Sandrine.
Le voyage que vous proposez dans votre album, on peut raconter plein d'histoires, reprendre des légendes, les mettre au goût du jour, les retransformer. Qu'est-ce qui a donné l'idée de ce voyage pour donner la thématique au concept album qui est sorti ?
Alors là, on est un peu sur autre chose, effectivement, parce que, en fait, on s'est dit qu'on voulait avoir, comme les membres du groupe actuel sont pas nécessairement dans cette inspiration ou cette veine typiquement viking, comme moi je le suis depuis que je suis gamin, on avait envie d'avoir un message qui correspondait à tout le monde. Et donc on s'est dit qu'on serait un peu plus contemporain et moderne dans notre démarche. On s'est imaginé qu'on viendrait de Niflheim, un des 9 mondes, et qu'on viendrait en Midgard, donc le monde des hommes et des femmes, pour faire le constat des paradoxes de notre société actuelle. Donc c'est ça en fait l'idée de cet album, c'est faire une critique constructive et poétique des paradoxes de cette société, à savoir qu'il y a encore de la guerre, la famine, la misère. C'est un peu paradoxal parce que l'histoire nous a tellement si souvent enseigné normalement des leçons qui n'ont, semble-t-il, pas été retenues. Donc à travers la chanson, la musique, on essayait d'exprimer le fait que ça nous heurtait, tu vois. Donc c'est ça le concept de cet album. toujours avec ces codes de vikings qui étaient pas forcément que des poètes et que des commerçants, qui étaient aussi des guerriers, qui étaient aussi des gens qui risquaient la vie. Et ce concept du Valhalla, de la promesse d'une vie glorieuse après la mort, etc., c'est un peu du fanatisme tout ça, et on avait envie de le pointer du doigt. Voilà. Donc cet album, c'est vraiment une critique de notre société actuelle contemporaine, avec une langue qui est morte. Donc c'est un pont entre le passé et le présent. Et dans nos vies, à tous, au quotidien, on essaye de s'inspirer du meilleur du passé, de l'héritage, de la tradition, de la transmission de nos aïeux, et essayer de faire de notre mieux avec ce qu'il y a de bien d'aujourd'hui aussi, quoi, tu vois. Pour avoir fait de la reconstitution pendant des années, étant toujours membre d'une troupe de reconstitution, la Branche Rouge, je peux te dire que je suis bien content de notre technologie et de la médecine et des avancées et tout ça, tu vois. Donc on n'est pas dans une nostalgie du passé, on est dans... On essaie de retrouver un éveil et une connexion avec les choses importantes de la vie. Et la bienveillance, le respect, la courtoisie, l'humilité, ce genre de choses. Voilà. C'est un peu naïf, mais ça nous fait vibrer.
C'est le principe du plus petit pas possible. Déjà, si dans votre groupe ça marche, après, peut-être que ça pourra s'étendre et le message pourra passer peut-être à travers la musique.
Ça n'a pas toujours fonctionné. On a été mis à rude épreuve avec les égos de certains membres qui ont traversé l'histoire du groupe, pour qui j'avais beaucoup d'affection et qui, voilà, ça n'a pas toujours été simple. Là, on a trouvé un équilibre. On a trouvé un équilibre et voilà, si on peut inspirer un petit peu par l'exemple et à notre, sinon on peut prendre du plaisir à faire de la musique et inspirer un petit peu de la bienveillance et du respect. Bah c'est, ça serait super. Ça serait une belle opportunité, quoi.
Ce côté, justement, néo-pagan, je vais l'appeler comme ça, ça requiert des recherches un peu précises ou au contraire, justement, c'est librement inspiré, du coup. Comment est-ce que tu gères entre les deux, justement, pour pas être trop viking, façon de parler, trop historien, et raccrocher quand même un peu tout le monde?
C'est une très très bonne question. Je pense que c'est précis dans le sens où... quand j'étais adolescent, je suis passé par tous les clichés et aujourd'hui, je suis sorti de toutes ces choses-là, tous ces clichés qu'on constate aujourd'hui avec cette série, avec cet engouement pour cet univers. Et je pense que c'est un processus normal, que tout le monde doit passer par ces clichés-là et que, voilà. On a eu la chance de fréquenter des érudits, des archéologues et des choses comme ça. J'ai un appétit pour certaines précisions, mais sans être non plus complètement fermé, tu vois. Et je pense qu'il y a cette ouverture et cette le plaisir de s'approprier des choses, de la mythologie ou de l'histoire, pour en faire quelque chose de poétique, onérique et artistique, tu vois. Donc du coup, pour créer l'univers graphique ou musical, on est dans la précision de certains ouvrages, l'Edda poétique, Havamal, enfin, tu vois, il y a des textes de Snorri qui sont étudiés quand même comme base de travail. Mais après, on laisse l'imaginaire faire son œuvre et la sensibilité. Et ce qui est super intéressant, justement, c'est quand moi, qui suis pas un spécialiste, mais un passionné, je vais venir donner quelques éléments aux autres et en fonction de leur sensibilité, de leur histoire et de leur culture, ça va évoquer des choses. Et c'est ces choses-là qui vont être mises en commun comme dans un cocktail. Et c'est là où ça devient... On essaye d'apporter quelque chose de riche. Et où on n'est pas fondamentalement accroché au texte ou accroché à l'histoire ou à... parce que déjà, souvent, quand on nous dit « ça, c'est pas histo », nous, on n'a pas la prétention d'être un groupe qui fait de la musique historique, déjà. Et puis souvent, les mecs qui disent « ça, c'est pas histo », ils n'ont pas de source pour te contredire ou te dire que... Mais c'est encore un autre sujet, voilà. Donc, ouais, je crois qu'il y a, il y a un certain sérieux dans les sources de travail, mais une liberté. Une liberté dans l'interprétation ou l'usage de ces sources.
Voilà. Les instruments, c'est un peu la même ambiance aussi, parce que vous en avez quoi, j'ai pas compté, mais vous en avez plus d'une dizaine.
Alors, je sais plus combien on en a, mais effectivement, il y a une grosse richesse, un gros métissage. Rien qu'au niveau des percussions, on a des percussions argentines, américaines, japonaises, turques. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a le gemri, qui est une sorte de basse violoncelle, comme ça, du Maghreb. Il y a Arnaud qui joue des lyres qui viennent de Grèce, inspirées des lyres antiques. Neige qui joue du bouzouki irlandais. Enfin, tu vois, il y a... Moi qui m'amuse à faire du chant guttural mongol. En fait, je crois que l'usage de tous ces instruments, je crois, en discutant avec toi, que finalement, l'idée qu'on a, c'est d'essayer d'être universel. Comme si, à l'origine, il y avait une origine commune, et il y avait une tradition, et ensuite des traditions. Alors ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées. La tradition étant quelque chose qui veut dire transmettre, tu vois, transmettre un savoir, une sagesse, une culture, bref. Et je crois qu'en utilisant tous ces instruments, eh ben, on essaye d'être universel dans un message de paix, je crois, et de bienveillance. Ça peut paraître vachement naïf, mais je crois qu'on a largement les moyens en 2024 d'accepter un message de paix et de le mettre en application, quoi. Alors, c'est pas nous qui allons changer le monde, mais comme le colibri, on aura fait notre part, simplement.
Yeah. Pour revenir sur le chant guttural, parce que c'est quelque chose qui me passionne et que je maîtrise pas du tout, tu disais que c'était potentiellement, enfin, tu parlais d'universalité. Effectivement, on a ça sur le chant mongol, mais ça se fait aussi en Sibérie, si tu vois où je vais arriver après avec la collaboration que vous avez faite. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui parle à beaucoup de monde, en fait.
Je sais que le chant guttural existe même en Afrique. J'ai vu des vidéos hyper intéressantes avec des femmes africaines des quatre coins de l'Afrique qui faisaient du chant guttural. C'est un truc hyper universel. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, mais de le pratiquer, ne connaissant pas dans les détails son origine ou les traces historiques de cette technique, rien comme moi j'ai commencé à l'apprendre, j'ai voulu imiter Pierrick Valence, le Skald, qui le maîtrise très très bien. Qui le fait super bien, et j'ai voulu l'imiter en fait au départ, parce que à l'époque quand on travaillait encore ensemble sur le projet d'avant, j'avais envie de m'y essayer, et à force d'y travailler, le travail que j'avais dans le souffle et le diaphragme, c'était presque un antidépresseur pour moi, le chant guttural, vraiment. Alors je ne maîtrise pas encore super bien comme lui ou comme les camarades de Huey qui étaient là tout à l'heure, évidemment. Mais encore une fois, il y a une vibration qui transporte, qui fait voyager, qui y a une sorte de mystique là-dedans, et c'est hyper apaisant, quoi, tu vois. Alors, j'arriverai pas à prononcer un groupe qui m'inspire beaucoup, qui vient de Mongolie aussi, mais quand j'écoute certains de leurs concerts, je suis apaisé, quoi. Il y a un truc, quoi. C'est quand même fou qu'une fréquence. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus d'ailleurs, il y a des thérapeutes qui travaillent sur les, tu vois, sur les vibrations et les fréquences. Et ben écoute, voilà, je crois que cette fréquence-là, elle est en train d'avoir un succès mondial, et que cette technique-là, elle fait du bien aux gens, elle parle aux gens pour une raison, et peu importe la raison d'ailleurs. En fait, ce qui compte, c'est le résultat. Si les gens ils sont apaisés, transportés, et ils sont dans une bulle, ne serait-ce que le temps d'un concert. C'est un palliatif, quoi. Palliatif voulant dire supporter la douleur, quoi, avant la fin, tu vois. Donc, je pense pas qu'on soit né pour souffrir toute notre vie. On a la chance ici, dans nos sociétés occidentales et européennes, d'être relativement à l'abri. Il y a la misère, hein, bien sûr, hein, mais d'être relativement, voilà. Et ben, quand on est privilégié comme moi, je parle en mon nom, j'ai pas envie de parler au nom des autres, mais j'ai pas envie de garder cette chance pour moi tout seul. Voilà, je parle avec mon cœur, là, tu vois.
Pour revenir sur les différentes collaborations que vous avez eues, parce qu'il y a eu déjà un clip, enfin, il y a eu un featuring sur l'album avec le groupe russe, Hitland. Ça s'est passé comment, cette rencontre? Parce qu'eux aussi ont leur folklore, on va dire.
Bah, en fait, on a joué au même festival, le Samarok, il y a 2 ans ou 3 ans. Et nos concerts ont été annulés à cause d'un arrêté préfectoral pour orage violent, des choses comme ça. Donc on s'est retrouvé avec Korpi Klani et Nitland à faire la fête et à chanter et à voilà. Et on est devenus vraiment de bons amis, et je les ai invités sur notre festival qu'on organise, le Fenji King Fest, en 2022, je crois. Ils sont invités cette année encore. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et des fois, j'ai beaucoup de pudeur vis-à-vis d'eux, beaucoup de... Alors, quand on parle pas de musique, c'est comme des amis de toujours. Quand on parle de musique, j'ai toujours un peu ce respect de ceux qui étaient là avant et tout ça, cette humilité, tu vois. Et puis, un jour, je me suis jeté à l'eau, je leur ai dit, est-ce que ça vous dit de faire un featuring? On l'avait fait sur un autre titre qui s'appelle Call Midgard's Vaitir. Et puis là, sur l'album, ça me semblait un témoignage d'affection et de respect, de leur proposer de participer, quoi, en fait, tout simplement. Parce qu'on est là-dedans, dans l'humain, dans le vivant, on n'a qu'une vie, quoi, pas le temps de se faire chier avec d'autres choses, quoi. C'est ça.
Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, les mois à venir pour le groupe ?
Tellement de trucs. Il va y avoir un clip. Le clip de Scougar qui va sortir. Là, il y a des copains de Nihilism qui ont sorti une version de notre titre Holmganga en version death metal. Donc c'est vraiment intéressant. C'est marrant. Après, nous, on va travailler sur ce festival, mais dans la foulée, je pense en novembre, on va avoir quelques dates. Il y en a une à Paris, une à Lille, mais je peux pas en dire trop pour l'instant. Et puis on verra. On verra. On va essayer de se reposer cet été un petit peu, au moins un tout petit peu. Parce qu'avec la sortie de l'album, là, c'était quoi, le 13 mai ? Non-stop, on était là-dessus depuis le mois d'octobre, c'était un peu compliqué. En plus, avec Christine, on est en couple, donc on passe notre temps à parler que de ça. Donc je pense qu'on a besoin un petit peu de se retrouver, de se ressourcer dans un premier temps. Et puis après, de proposer de nouvelles choses. Tant qu'on reste dans cette démarche authentique et honnête, il n'y a rien qui pourra nous arrêter, je pense. Voilà.
Quelque chose de plus que tu souhaiterais nous dire avant que je passe à ma dernière question ?
Je dirais le dernier mot que Christine évoque toujours, prenez soin de vous. Mais ce sont ses mots, mais elle est pas là, donc voilà. Essayons de prendre les soins les uns des autres. Et je crois que c'est ce que c'est ce type de groupe là, Vardruna, Elo, Nitland. C'est un message, je crois que c'est le message qu'on essaye de tous d'apporter. Voilà. Donc on contribue à notre manière. Avec toute l'humilité que ça demande, on contribue à ce message.
Cette année, pour terminer nos interviews, je te propose de changer de maison. Je vais te proposer 5 maisons et tu choisis celle que tu veux. Tu peux choisir dans la maison de la famille Maitland, en référence à Beetlejuice, okay. L'atelier du Père Noël, okay. La maison de la sorcière du voyage de Chihiro, la maison de la famille Ingalls pour la petite maison dans la prairie ou le palais de Scheherazade. Tu prendrais quelle maison ?
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça renvoie à pas mal de choses et pas mal de clichés. Mais je dirais le palais de Scheherazade. Parce qu'il y a un caractère très oriental dans notre dernier album. Et donc c'est un clin d'œil que je ferai là.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à toi.